Bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet de nettoyage des robes de Madeleine Vionnet, conservées aux arts décoratifs dans le cadre de restauration du fonds. En effet, comme Maximilien Durand et Emmanuel Garcin ont pu vous l'expliquer précédemment, très tôt dans le projet s'est imposée l'idée de réaliser le nettoyage de ces robes. Des personnes travaillant depuis plusieurs années au musée ont effectivement pu constater la dégradation rapide de plusieurs robes, pourtant conservées dans de bonnes conditions et peu ou pas exposées durant cette période. De plus, certaines robes, nettoyées en 1999 par Véronique Monnier, restauratrice indépendante, ont été mieux conservées que d'autres similaires. Le nettoyage est donc apparu comme une solution risquée mais nécessaire pour assurer la conservation à long terme du fonds. Le nettoyage est une opération rare en restauration de textiles en raison de son irréversibilité et parce qu'un textile altéré par son vieillissement est susceptible de mal réagir au traitement. Pourtant, en nettoyant, on obtient une amélioration esthétique. En effet, la poussière a tendance à atténuer les couleurs et les motifs des textiles et provoque un ternissement général. Mais avant tout, la saleté menace les fibres. La poussière ne provoque pas la détérioration des fibres, mais elle accélère celle-ci. Le nettoyage constitue donc une part importante du processus de stabilisation de l'objet. Dans le cas des robes Vionnet, plusieurs raisons nous ont poussés à réaliser ce nettoyage. Le matériau de prédilection de Vionnet était la soie. Or, ce matériau est très sensible à l'empoussièrement, cette caractéristique étant exacerbée par certains tissages. Les étoffes les plus fines, tulle et gaz de soie, tant appréciées de Vionnet, sont paradoxalement les plus sales, car leur structure retient la poussière. La finesse du tissage induit une plus grande surface d'échange et donc une détérioration plus importante de la fibre. De plus, Vionnet faisait un usage particulier des tissus, comme on a pu le voir précédemment. Elle utilisait les tissus dans le biais, privilégiait les drapés, les décors très lourds sur des tissus fins. Or, ce type d'usage a provoqué l'affaiblissement des étoffes. Tout ce qui pouvait contribuer à leur conservation devait donc être mis en œuvre, en particulier dans le cadre d'une exposition qui est quand même relativement longue, 7 mois, et dans la mesure où nous voulions pouvoir réaliser également la remise en forme des robes avant exposition. Plusieurs types de salissures se trouvent sur les robes Vionnet. Tout d'abord, des traces d'usage, principalement des taches de transpiration, comme vous pouvez le voir sur les deux images du haut, mais également des taches diverses, cosmétiques, sang, nourriture, herbes, poussière, datant de l'époque où les robes ont été portées. Ces taches peuvent à long terme provoquer des lacunes, comme nous le voyons sur les photos du bas. La salissure est également constituée de produits d'altération, autrement dit de poussière de fibres. Et enfin, les robes se sont salies durant leur stockage, que ce soit dans la maison de couture, chez les clientes, à l'UFAC ou enfin au musée, et les robes se sont globalement empoussiérées. La poussière est constituée de particules très variées qui la rendent hygroscopique. Or, la soie est très sensible à l'eau. La poussière est donc dommageable pour l'objet. Elle peut également être un catalyseur de réactions chimiques. Les particules de poussière sont légères et de petite taille, ce qui explique qu'elles se glissent au cœur des fibres. Dans le cas des robes du fonds Vionnet, on retrouve surtout une poussière grasse, typique de la pollution atmosphérique. Cela donne un toucher collant aux robes, en particulier aux tulles. La micro-aspiration ne suffit pas pour éliminer cette salissure grasse. Or, la soie employée par Vionnet pour la plupart de ses robes ne supporte pas l'eau. La solution d'un lavage a donc dû être écartée. Le nettoyage par solvant constitue une bonne alternative, d'autant que la salissure à éliminer était grasse, et elle devait donc être mieux éliminée par des solvants. Afin de réaliser ce projet, il a tout d'abord été envisagé de traiter les robes au sein de l'atelier du musée. Cependant, le nombre important de robes à traiter, 70 au total, ainsi que les problématiques de sécurité, nous ont fait opter pour un nettoyage en extérieur. Il a alors été envisagé de faire réaliser le nettoyage par une restauratrice indépendante. Cependant, aucune n'était équipée pour traiter une telle quantité d'objets. Il est alors apparu nécessaire de faire appel à une entreprise spécialisée dans le nettoyage à sec. Nous avions cependant plusieurs exigences. Nous voulions exclusivement un nettoyage en bain et non dans une machine, avec le solvant que nous avions sélectionné, dans certaines conditions que je vais vous détailler. Nous souhaitions également une entreprise située à Paris afin de permettre la présence d'une restauratrice du musée à chaque intervention. La teinturerie de luxe Pouyanne a été sélectionnée car elle est habituée à traiter des tissus fragiles comme des robes de haute couture. Elle a ouvert il y a plus d'un siècle et traite régulièrement des objets patrimoniaux. Elle a travaillé à plusieurs occasions avec les arts décoratifs et elle a en particulier traité les tenues créées par Jean-Paul Gaultier qui ont été présentées durant l'exposition Jean-Paul Gaultier, Régine Chopineau, le défilé aux arts décoratifs en 2007. Cependant, ces costumes n'appartenaient pas au musée au moment du traitement. En effet, depuis 2002, la loi musée impose que les personnes restaurant des œuvres appartenant au musée de France soient habilitées, soit en ayant obtenu le diplôme d'une formation reconnue, soit en ayant reçu une habilitation particulière, ce qui n'était pas le cas de Pouyanne ni d'aucune autre teinturerie. Il a donc été nécessaire de trouver une solution originale pour permettre le traitement des robes. Les arts décoratifs, à l'initiative de Maximilien Durand, ont eu l'idée d'une convention qui pouvait s'établir. Pouyanne s'engageait à recevoir une formation spécifique et acceptait la présence systématique d'une restauratrice du musée durant tous les traitements et obtenait en échange le traitement de l'ensemble des pièces sélectionnées. Le musée a alors contacté l'INP et a proposé que cette convention fasse l'objet d'un partenariat entre les deux institutions, avec un programme de formation conçu par Maximilien Durand pour les arts décoratifs et Patricia Dalpra pour l'INP. La formation, qui s'est déroulée au sein même des arts décoratifs, a été dispensée à Nathalie Felbert, directrice de Pouyanne, et à son adjointe Catherine Jurez. Elle s'est composée de quatre grandes parties. Les premiers cours, théoriques, étaient composés d'enseignements généraux sur la restauration, sur les textiles, leurs altérations, les différents éléments qui peuvent les décorer, sur le nettoyage, le dépoussiérage et sur la manipulation. Dans la dernière partie, pratique, était réalisé le conditionnement de robes appartenant à la collection du musée, d'où l'intérêt d'être dans les lieux, et en particulier des robes de Madeleine Vionnet. La formation a été dispensée par Régis Berthollon pour la partie déontologique et par Patricia Dalpra pour la suite des enseignements. L'accent a été particulièrement mis sur l'objectif du nettoyage, qui diffère de celui d'un client classique de teinturerie. Dans le cas d'un objet patrimonial, le résultat peut être peu visible, mais satisfaisant, le principal étant que la conservation à long terme de l'objet. À la suite de cette formation, le nettoyage en lui-même a pu débuter. Afin de procéder au nettoyage, nous avons choisi un solvant avec une volatilité élevée, afin qu'il s'évapore rapidement. Nous voulions également un solvant non polaire pour éliminer au mieux la poussière grasse et limiter les risques de dégorgement. Nous avons donc choisi un hydrocarbure aliphatique. Nous avons privilégié un type de solvant avec lequel nous étions familières et qui a fréquemment été utilisé pour le nettoyage des textiles anciens durant les trois dernières décennies. Nous avons donc du recul sur ses effets sur la soie. Ses inconvénients sont son inflammabilité qui rend nécessaire des précautions dans sa manipulation et sa toxicité. Nous avons ensuite effectué la sélection des robes à nettoyer. La liste des robes pour laquelle un nettoyage était nécessaire avait été établie par Emmanuel Garcin durant son étude préalable en 2007 qu'elle vient de vous présenter. Nous avons repris cette liste afin d'établir le programme définitif de nettoyage en excluant les robes ne pouvant supporter ce traitement. Pour cela, une inspection minutieuse a été effectuée afin de repérer toutes les faiblesses, lacunes, déchirures, coutures défaites, etc. Dans certains cas, les zones les plus fragiles ont pu être stabilisées avant le nettoyage et les robes ont été maintenues dans le programme. Dans d'autres cas, les robes les plus fragiles ont été écartées de la campagne de nettoyage. Chaque sélection a fait l'objet d'une validation par Pamela Golbin, conservateur en charge du fonds, et par Maximilien Durand. Nous avons sélectionné des robes dans tout type de tissage de soie, crêpes, mousseline, tulle, gaze, mais également des robes en rosalba, mélange de soie et d'acétate de cellulose, et un manteau en lainage. Dans le cas des robes ornées de broderies perles et paillettes, il a été décidé de les inclure dans la campagne de nettoyage et de réaliser des tests afin de vérifier que ces matières pouvaient être immergées dans le solvant. De même, les robes comportant des éléments non textiles, comme des boutons ou des bijoux, ont été sélectionnées et un nettoyage partiel a été envisagé. Les 10 premières robes ont été sélectionnées pour leur représentativité, au point de vue du tissage, des colorants et des formes employées. Elles ont fait l'objet de tests par Dominique de Rayère et Françoise Viennot, que Dominique vous présentera dans quelques minutes. L'ordre dans lequel les robes ont été nettoyées a été fixé en fonction de plusieurs critères. Priorité aux robes sélectionnées pour l'exposition, traitement par type de robe, les crêpes ensemble, les tulles ensemble et par couleur. Le nettoyage s'est déroulé entre février et mai 2009 au rythme de 6 robes traitées par semaine sur 2 demi-journées. Il a toujours été réalisé par Nathalie Felbert et Catherine Jurès qui ont reçu la formation en présence de l'une des restauratrices du musée, Célia Thibault et moi-même en alternance. La première étape était la réalisation d'un constat d'état et de photographies d'ensemble et de détails de chaque robe. Un test était réalisé sur une petite partie de la robe afin de vérifier que le solvant n'avait aucun effet négatif sur le textile, puis sur chaque colorant de la robe. Enfin, les décors de type perles paillettes étaient testés, ainsi que les étiquettes comportant le numéro d'inventaire. Le transfert des robes était effectué la veille de l'opération de nettoyage par le service de régie du musée. Les personnes de Pouyanne pouvaient alors observer les robes et lire le constat les accompagnant. Le jour du traitement, les robes étaient sorties de leur emballage, les étiquettes temporaires détachées et une nouvelle observation était réalisée par les personnes de Pouyanne en présence de Célia ou de moi-même afin de repérer les faiblesses de la robe qui pouvaient poser problème durant la manipulation. En raison de la toxicité du solvant employé, l'opération se déroulait dans une pièce équipée d'un système d'extraction d'air. Les personnes présentes durant le nettoyage portaient un masque à cartouche et des gants adaptés à la manipulation de ce type de solvant. Les robes étaient posées sur un tulle synthétique ourlé sur les bords. Une personne à chaque extrémité soulevait ce support et le plongeait dans un bac rempli de solvant. Une légère agitation du liquide permettait de faire circuler le solvant. Dans le cas des salissures ponctuelles, une brosse douce passée doucement permettait de soulever les particules. Dans le cas de robes comportant des éléments en plastique ou en métal, que nous ne souhaitions pas immerger, le tulle permettait de maintenir cette partie de la robe hors du bain. Le solvant pénètre peu dans le textile et on n'observe pas de phénomène de capillarité, comme on peut en observer dans le cas d'un traitement à queue. Après traitement, aucun front n'est apparu sur les robes traitées partiellement de cette manière. Après un bain de 2 à 5 minutes, selon la robe, toujours posée sur son tulle, était sortie du bac. Quelques instants au-dessus du bac permettaient au solvant de sortir du textile. La robe était alors placée sur une table recouverte de tissu éponge et de buvard. Un léger tapotement des parties les plus sales à l'aide d'un petit morceau de buvard a parfois pu permettre de sortir à nouveau des particules. Dans le cas des textiles les moins fragiles, l'évaporation du solvant a été accélérée à l'aide d'un sèche-cheveux réglé à thermostat froid à une distance de 50 cm environ de la robe. Après changement des buvards, la robe était ensuite laissée sur la table le reste de la journée afin que le solvant s'évapore totalement. Le transport retour au musée était réalisé le lendemain de l'opération, suivi d'un nouveau constat et de nouvelles photographies. Après traitement, le bac présentait parfois un dépôt noir comme on peut le voir sur la photo de droite. Cas particulier, les robes en tissu lamé ont été écartées de la sélection par précaution, l'hétérogénéité du matériau risquant de mal réagir au traitement. Cependant, dans le cas de la robe UF521872 que vous pouvez voir ici, il était réellement nécessaire de tenter un nettoyage pour lui retirer son aspect terne et sale. Nous avons donc cherché un solvant qui convienne à la fois au textile mais également au métal constituant le tissu. Une discussion avec Olivier Tavozo, restaurateur du patrimoine spécialisé dans le métal, nous a amené à découvrir le citrosolve, un termène monocyclique parfois utilisé pour le nettoyage des métaux et dont les caractéristiques sont proches de celles du white spirit, tout en n'en présentant pas la toxicité. Le traitement, réalisé par Célia Thibault, a été réalisé selon plusieurs techniques, selon les salissures. Les taches ont été traitées par tamponnage, au coton-tige et sur buvard, tandis que le bas de la robe et les bretelles, dont la salissure était plus diffuse, ont été traitées par bain dans un bac sous haute aspirante pendant 30 minutes environ, en ajoutant l'action d'un pinceau doux dans les zones les plus sales. Le surplus de solvant a ensuite été absorbé entre deux couches de buvard, et vous voyez le buvard après traitement. Le résultat est une nette amélioration de l'état du lamé, visible également par la quantité de salissure présente sur le buvard. Les résultats concernant l'ensemble des robes traitées par hydrocarbures aliphatiques, le résultat est parfois peu visible et n'est en aucun cas spectaculaire. On a toutefois éliminé la poussière incrustée dans les fibres et on a ainsi limité l'impact à long terme de ces résidus. Pour certaines robes, le résultat était toutefois visible. L'effet de ternissement a disparu et on a pu constater un plus grand éclat des couleurs des robes de crêpes un gain de souplesse des étoffes et en particulier des mousselines, et au point de vue du toucher, les robes en tulle ont perdu leur aspect collant. Je donne maintenant la parole à Dominique de Reyer qui va vous présenter les résultats de ses tests sur les 10 premières robes traitées.
Voilà, donc je vais vous présenter le travail qu'on a effectué donc au cours de ces campagnes de nettoyage. On a essayé de mettre en place, d'utiliser un outil, de voir si on pouvait utiliser un outil pour évaluer l'effet du nettoyage. Donc on n'a pas fait une étude vraiment de laboratoire avec sans programme de recherche, on a été un peu limité dans le temps. Ce qu'on a voulu faire, c'était de voir à partir des outils qu'on avait à disposition, quel outil serait le plus adapté pour mettre en évidence l'effet de ce nettoyage. Alors, ce travail a été réalisé en collaboration avec Françoise Viennot, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, je le regrette, parce que c'est vraiment, Françoise Viennot donc, est chercheure au CRCC, et c'est vraiment son domaine de travail et de compétences. Elle travaille sur la vision, et notamment aussi sur le contrôle de la couleur, sur l'approche visuelle numérique de la couleur, et aussi sur la métrologie optique, et visuel du brillant. Donc on a fait ce travail en collaboration et aussi avec Aude qui était présente tout le temps des essais et des mesures qui étaient là. Alors la couleur, le brillant, la texture et la transparence sont des attributs visuels d'apparence. Ces attributs s'appliquent tout particulièrement au textile. Et l'exposition de Jean-Paul Leclerc, Jouer la lumière en 2001, nous montrait bien tous les multiples champs d'exploitation qu'on pouvait avoir avec la lumière et les textiles. C'est la lumière qui fait apparaître la couleur des matériaux. C'est la lumière qui fait naître l'aspect de surface. Donc la sensation visuelle est une combinaison de la vision et d'une interprétation du cerveau. On a la sensation visuelle quand on regarde les robes qu'il y a eu une perte d'éclat au fil des ans. Il y a un aspect terne et grisâtre, conséquence, comme on l'a dit, du vieillissement des matériaux, de la dégradation des fibres, de la détérioration des colorants, de l'accumulation des salissures, les poussières grasses incrustées dans les fibres ou le dépôt des particules de poussière. Et il nous a donc semblé que la notion d'éclat présenter donc une bonne équation entre le niveau de coloration et l'état de surface. Donc la couleur et le brillant, qui sont donc des attributs d'apparence visuelle perceptive de la surface. La couleur est un attribut perceptif d'origine spectrale et le brillant est un attribut d'apparence d'origine géométrique. Ces deux grandeurs sont des grandeurs mesurables par des méthodes physiques. On a testé les deux méthodes au cours d'essais préliminaires et on a eu l'impression d'avoir de meilleurs résultats pour mesurer les petits écarts avec la mesure du brillant. À savoir que la mesure de la couleur est quand même la méthode généralement la plus courante et celle qui est la plus utilisée. Mais là, d'après les résultats qu'on avait obtenus, il nous semblait qu'avec la brillance, on pouvait mettre... ces écarts, parce que, comme l'a dit Aude, le nettoyage, on n'avait pas une grosse différence au niveau de la couleur avant-après, et c'était difficile un petit peu à mesurer, sûrement. Donc on a voulu tenter l'effet de la brillance. Alors justement, il faut distinguer la brillance d'une surface, qui a un attribut d'apparence visuelle, que l'on juge avec l'œil, par la vision, du brillant d'une surface, qui a un attribut perceptif, qui est lié à la répartition de la lumière réfléchie dans l'espace par une surface. Alors, l'aspect mat, satiné ou brillant d'une surface va dépendre de la distribution directionnelle de la lumière réfléchie par la surface de l'objet. La distribution directionnelle de la lumière sur une surface est quelque chose de complexe, puisqu'elle va dépendre de la rugosité de la surface. Il y a des matériaux, certains matériaux sont réguliers, d'autres sont irréguliers, anisotropes, notamment comme la paille, dans l'exemple que vous avez ici. On voit que sur cette marqueterie de paille qui a été fabriquée, lorsque, en fonction comment dire, du faisceau. Lorsque le faisceau est dans le sens de la paille ou dans le sens perpendiculaire, on voit que l'on a une distribution de la lumière différente. Par exemple, lorsque le faisceau est envoyé dans le... Ici, dans ce cas-là, le faisceau est envoyé dans le sens de la, enfin, dans le sens de la tige. On voit donc que l'on a une répartition de la lumière en forme de cône, alors que lorsque le faisceau laser est envoyé en, perpendiculairement au sens de la tige, la distribution de la lumière est verticale. Donc la mesure de la distribution est assez complexe, et quand on veut vraiment analyser l'ensemble de la distribution, il faut un dispositif assez particulier et mesurer la lumière dans une demi-sphère qui recouvre toute la surface de l'objet. D'une manière beaucoup plus simple, pour simplifier le problème, on utilise un brillance-mètre. Et dans ce cas, on ne mesure la quantité de lumière réfléchie dans une direction, dans une configuration géométrique donnée. Un brillance-mètre est constitué par une source lumineuse qui dirige donc un faisceau de lumière sur la surface et d'une cellule photoélectrique qui va recevoir la lumière réfléchie dans la direction spéculaire. Par convention, on a choisi trois angles d'envoi donc de la lumière, 20 degrés, 60 degrés, 75 ou 80 degrés. Ces angles ont été choisis de façon un petit peu standard par rapport à certaines surfaces. Par exemple, quand on a une surface mate, on va avoir un meilleur résultat avec une lumière rasante et l'angle de 20 degrés est plus adapté pour les surfaces très brillantes. D'une manière générale, l'angle de 60 degrés est un angle standard qu'on utilise pour l'ensemble des matériaux. Le résultat de la mesure qu'on va obtenir va dépendre donc de l'angle d'incidence qu'on aura choisi. Le brillant, la valeur du brillant est donnée selon une échelle qui s'établit de 0 à 100 par rapport à un témoin, une surface noire brillante qui est utilisée comme témoin pour étalonner l'appareil. Alors, dans l'étude que l'on a faite, on a fait donc des essais, des mesures sur un certain nombre de robes qui ont été sélectionnées parmi toutes les robes qui ont été nettoyées. Alors, on a choisi des robes qui présentaient différents aspects de surface, comme les crêpes, le crêpe qui est une surface un petit peu ondulée, le velours qui est une surface donc recouverte de poils, ou le tulle qui est une surface transparente formée par un réseau de mailles. D'une manière générale, tous ces tissus sont faits de la même matière, c'est de la soie. La soie est un matériau naturellement brillant. La brillance de la soie est due à la morphologie du brin de soie, à la forme triangulaire de ce brin de soie. Alors, au niveau expérimental, les mesures ont été prises avant et après nettoyage. On a essayé de travailler toujours dans les mêmes conditions, de repérer les zones sur lesquelles on faisait nos mesures. Donc, on a mis, comme les tissus sont assez fins, transparents, on mettait plusieurs épaisseurs de tissu. On a fait les mesures systématiquement, comme on n'avait pas d'expérience en fait sur des mesures de brillance sur les robes, pour les trois angles à 20 degrés, 60 degrés, 75 degrés. Et on a ensuite aussi fait attention et fait des mesures dans les différents sens du tissu. Bien sûr, il y a une répétition des mesures. On a fait 10 mesures, donc les résultats qu'on va vous présenter sont la moyenne des 10 mesures. De manière générale, par rapport à la répétition, il n'y avait pas de grande variation. Donc ici, je vais vous présenter quelques résultats représentatifs. Ces résultats sont présentés donc sous forme d'histogramme. La flèche. Donc chaque série représente un sens du tissu. Et pour chaque sens, ici, vous avez les mesures obtenues pour les différents angles. 20 degrés, 60, 75... Et là, les différentes couleurs, c'est donc avant nettoyage, après nettoyage. Voilà. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit ces indices? Donc, ce genre de profil, c'est ce qu'on a obtenu en général. On voit qu'on a une valeur d'indice qui est assez faible, qui est inférieure à 2,5 unités de brillant, que le mesurage à 60 degrés, c'est celui qui nous donne, enfin je rappelle, oui, 2,5, et je vous rappelle que l'échelle va de 0 à 100, hein, donc on est quand même vraiment très faible. Bon, c'est avec l'angle de 60 degrés qu'on a les mesures, la meilleure réponse, et qu'en fait, quand on compare avant et après nettoyage, on voit que ben, l'effet du nettoyage n'est pas perceptible par l'indice de Brillant. Alors, effectivement, la surface des tissus n'est pas suffisamment lisse, et puis le tissage, en fait, l'entrecroisement des fibres joue un petit peu comme des pièges à lumière, comme des trous noirs. Alors, autre représentation, sur le velours de soie, par contre, on peut observer une variation et un gain réel de brillant entre avant et après le nettoyage, quand même. On a des valeurs d'indice un peu plus élevées, hein, mais de l'ordre inférieur à 5 quand même. Et donc, effectivement, on voit la plus grosse différence quand on avec l'angle de 75 degrés, hein, entre avant et après nettoyage. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a eu une variation de l'état de surface, hein, des poils, que le nettoyage a apporté quelque chose, en tout cas a modifié l'état de surface. Et dernier exemple, un petit peu différent, avec le crêpe de soie et sur Rosalba aussi, je crois, on a observé au contraire une légère diminution du brillant, mais vraiment très légère quand même. Mais c'est comme si on avait gagné un peu plus de matité plutôt que de brillant. Donc on se pose la question, enfin, est-ce que effectivement l'effet du nettoyage lui-même et du bain de l'opération joue aussi sur les fibres et peut-être sur la souplesse des fibres, ce qui modifie quand même l'allure de surface. Il ne faut pas oublier que la mesure du brillant, c'est une mesure de surface, hein, c'est une géométrie, de la géométrie de surface. Donc, en conclusion, on peut dire que l'effet du nettoyage, les effets ne sont pas perceptibles, qu'il est difficile donc d'enregistrer des variations significatives. Et avec Françoise Viennot, elle pensait en tout cas elle, qu'il serait peut-être intéressant d'orienter maintenant le travail un petit peu sur une mesure, pour essayer de mesurer cette ternissure, de travailler un petit peu sur les variations de couleurs en enregistrant des photos, donc par rapport à une charte un atlas de couleurs NCS qui existe. C'est un atlas de couleurs qui sont référencés internationalement et qui est très riche en couleurs, qui a 1700 couleurs, et notamment dans les teintes plutôt pastel. Donc l'idée, ça serait donc de repérer les couleurs étalons de l'échantillon qui se rapprocheraient du tissu que l'on veut contrôler, de faire des photos avant et après nettoyage par rapport à ces étalons, et ensuite par un traitement numérique de l'image, puisque maintenant avec Photoshop on peut quand même obtenir des valeurs, des quantités, essayer donc de quantifier et d'observer l'évaluation de la couleur, les variations de couleur, les légères variations. Voilà, donc en conclusion, il est donc difficile d'enregistrer des variations avec l'indice de brillant, hein, que le brillant semaine n'a pas été donc un outil tout à fait adapté, que les tissus, surtout les mousselines et les gaz, étaient vraiment trop mat, que l'entrecroisement des fils donc, agit comme des pièges et on n'a pas une surface assez lisse. Et en plus, la nature grasse donc des salissures qui s'incrustent à l'intérieur des fibres n'ont pas eu d'effet en fait, de surface, vraiment. Voilà. Donc ce travail, c'est des tests, hein, des essais qui ont été faits. Ça nous permet de voir qu'effectivement on n'était pas sur la bonne piste, mais il fallait l'expérimenter. Et donc j'espère qu'on pourra peut-être continuer à travailler sur ce domaine-là, parce qu'il semble important de pouvoir développer des outils, en tout cas à mettre en place, qu'on puisse utiliser dans les ateliers assez facilement par les restaurateurs. Au niveau du nettoyage, il y a encore quand même pas mal de travail à faire. Voilà, je vous remercie.